La disparition des oiseaux, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Plus d'une espèce d'oiseau sur sept serait menacée d'extinction. Parmi elles, la famille des passereaux est emblématique de ce déclin, avec des milliards d'individus mourant chaque année. Quelles sont les raisons de cette disparition massive des oiseaux? Quelles sont les solutions pour enrayer cette spirale? Deux ornithologues sont les invités de la Tête au Carré pour en parler et répondre à vos messages qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». La maladie d'Alzheimer peut-elle être contagieuse? Une étude parue la semaine dernière a semé le trouble et c'est à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Oui Mathieu, l'autopsie de 8 patients anglais a relancé l'enquête sur la transmissibilité de la maladie d'Alzheimer d'homme à homme et on suit le fil de cette intrigue dans un instant pour la une avec vos questions sur Twitter comme tous les jours.
Stéphanie Texier est aux commandes de La Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par François Mercier avec Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La disparition des oiseaux, ce sera donc le dossier de l'émission dans quelques minutes. À mes côtés pour en parler donc deux ornithologues, Frédéric Giguet et Maxime Zucca. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Frédéric Giguet, selon certaines statistiques, la moitié des populations de passereaux auraient disparu depuis 40 ans. En quoi d'abord cette espèce est-elle emblématique ?
Alors les passereaux, c'est un groupe d'espèces, c'est un ordre, les passeriformes, qui regroupe, on va dire, grosso modo, la moitié des oiseaux du monde.
Oui, quand même.
Un peu plus de 5000 espèces. Ils sont emblématiques parce qu'ils sont très proches, très présents de nous. Ils sont de petite taille, donc ils ont besoin de petits espaces pour vivre, contrairement aux gros oiseaux qu'on va pas observer souvent. Donc il y en a beaucoup. Souvent près de chez nous, près des maisons, près de l'homme, avec beaucoup d'espèces qui sont très connues du public. Les hirondelles, les moineaux, les mésanges, tout le monde connaît plus ou moins ces oiseaux-là.
C'est donc la grande famille des passereaux, on va en parler avec vous, parce qu'il semblerait que justement cette population soit particulièrement concernée par la disparition justement des oiseaux. Maxime Zucca, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus préjudiciable pour les oiseaux ?
Je pense que c'est principalement les grandes modifications de paysage qu'on a vécues au cours des 60 dernières années, depuis le remembrement agricole, l'intensification générale des pratiques, et puis la chute conséquente des populations d'insectes, donc plus de ressources alimentaires, et beaucoup moins d'endroits où nicher, où passer sa vie.
On va y revenir évidemment avec vous, c'est le dossier de l'émission. Arte va proposer deux documentaires sur la question, ce sera jeudi et vendredi à 19h, les messages sur franceinter.fr. La maladie d'Alzheimer est-elle possiblement transmissible? Cette question récurrente vient d'être relancée par une publication plutôt intrigante dans la revue Nature. C'était en fin de semaine dernière. Philippe Amouyel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur du laboratoire d'excellence d'Istals sur la maladie d'Alzheimer. Alors Philippe Amouyel, vos confrères londoniens ont découvert une anomalie associée à la maladie d'Alzheimer en autopsiant des personnes mortes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord le lien entre Creutzfeldt-Jakob et Alzheimer en l'occurrence ?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de lien entre Creutzfeldt-Jakob et Alzheimer, c'est juste une situation particulière qui remonte à 30 ans. Il y a à peu près une trentaine d'années, pour les gens qui avaient une taille plutôt petite, on avait l'habitude de leur injecter de l'hormone de croissance. Et à cette époque-là, l'hormone de croissance était obtenue à partir d'extraits de cerveau humain. Et alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On fait de l'hormone de synthèse et ça marche extrêmement bien. Et malheureusement, lorsqu'on extrayait ces cerveaux humains, un certain nombre d'entre eux avaient une maladie, et on ne le savait pas à l'époque, qui était la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Une maladie qui s'apparente à d'autres maladies qu'on a chez l'animal, en particulier ce qu'on appelle la maladie de la vache folle. C'est la même nature de maladie. Et lors des injections qu'on a faisait pour justement compenser la perte d'hormones de croissance et faire grandir un peu plus ces enfants, malheureusement, on a injecté quelques molécules d'un produit qu'on appelle le prion et qui se transmet lors de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Donc ça, c'est la partie qui correspond à Creutzfeldt-Jakob. Et en quoi faisons-nous le lien aujourd'hui avec Alzheimer ?
Alors maintenant, 30 ans après, nos amis anglais ont suivi ces patients. Certains d'entre eux, malheureusement, sont morts de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et ils ont donc regardé leur cerveau. C'est des gens qui sont morts à l'âge de 30, entre 36 et 50 ans. Et lorsqu'ils ont regardé leur cerveau, bien sûr, ils ont vu les lésions de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais ils ont été très étonnés parce que chez à peu près la moitié d'entre eux, ils ont trouvé des lésions qui ressemblaient à un type de lésion que l'on trouve dans la maladie d'Alzheimer, qui est ce qu'on appelle une protéine amyloïde en grande quantité.
Mmh. Mais ces personnes n'avaient pas développé la maladie, on est bien d'accord.
On est bien d'accord, ces personnes n'avaient pas développé d'une part la maladie, et d'autre part, les autres signes que l'on trouve dans le cerveau des gens atteints de maladie d'Alzheimer n'étaient pas présents chez ces gens-là. C'était uniquement l'augmentation de cette protéine amyloïde, qui est un des deux grands signes de la maladie d'Alzheimer au niveau anatomopathologique.
Donc là, les chercheurs anglais font une hypothèse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vérifier cette hypothèse de cette transmissibilité?
Alors, il y a deux notions qui surviennent là-dedans. La première, c'est pourquoi une revue comme Nature publie ce genre d'informations. Si c'est juste une information sur la transmissibilité, c'est probablement pas suffisant. En revanche, nous, ça nous aide en tant que chercheurs sur la maladie d'Alzheimer à comprendre certaines hypothèses qu'on a actuellement en cours. Il y a des travaux qui remontent à 4 ou 5 ans qui portent sur des modèles de souris auxquels on injecte des petits fragments de cerveau humain atteint de maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que ces souris, lorsqu'on injecte ça dans leur cerveau même ou dans leur ventre, ben ces souris développent la même chose, des anomalies, ces plaques amyloïdes qui se mettent à apparaître. Et lorsque l'on regarde les cerveaux de ces personnes décédées de maladie de Creutzfeldt-Jakob, on y voit une similitude avec ce modèle animal. Or, ce modèle animal est important parce qu'il nous aide à mieux comprendre comment la maladie au sein d'un individu évolue. On se pose des questions, pourquoi est-ce qu'à un moment ça touche une petite zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, siège de la mémoire, et ça s'étend à l'ensemble du cerveau. Et ça, on n'avait pas de réponse. Et l'idée de cette transmission sur un modèle de celui du prion était une hypothèse qu'on avait chez l'animal. Or, l'observation, et je dis bien l'observation, parce qu'il n'y a pas eu d'éléments expérimentaux, de ces lésions chez ces patients atteints de maladie de Creutzfeldt-Jakob, fait suspecter que lorsque l'on a injecté l'hormone de croissance, il y avait certes des molécules de prion, mais peut-être, je dis bien peut-être, y avait-il aussi des molécules de type hormone, peptide d'Alzheimer que l'on trouve chez les patients d'Alzheimer qui seraient à l'origine de cette diffusion.
Donc Philippe Amouyel, si je vous comprends bien, sur la souris là en particulier, on a une des signatures de la maladie d'Alzheimer, mais on n'a pas le développement de la maladie chez l'animal hein.
Non, on n'a pas le développement de la maladie chez l'animal parce que c'est une maladie qui est quasiment uniquement humaine.
C'est ça.
On n'a pas de bon modèle animal chez la souris aujourd'hui. On étudie certaines propagations chez la souris, mais on ne peut pas étudier la maladie dans sa complexité, à part chez l'homme.
Alors, est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne, justement, lorsqu'on conclut ou on propose l'hypothèse d'une transmissibilité, justement, de la maladie?
Oui, on va extrêmement vite, hein, pour plusieurs raisons. Le premier, vous l'avez fort justement dit, ce ne sont pas des maladies d'Alzheimer, et les auteurs du papier précisent bien que c'est une transmission d'amyloïdes, de substances amyloïdes. Ils ne disent pas de maladie d'Alzheimer. Ils sont très, ils font très attention aux termes qu'ils emploient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne, en fait, la notion de transmission. Là, ce dont on parle en tant que chercheur, c'est une diffusion au sein du cerveau, une extension qui va prendre 20 à 30 ans chez la personne. C'est pas la même chose qu'une transmission comme la transmission d'un virus ou d'une maladie infectieuse. Et même si transmission il avait, il faut voir dans quelles circonstances. Ce sont des extraits et des morceaux de cerveau humain. Il y a très peu de circonstances dans la vie où on est en contact avec des morceaux de cerveau humain dans la vie courante. Là, il se trouve malheureusement que dans cette situation, il y a eu ces injections. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Après, vous allez me dire, il y a peut-être dans le domaine de la neurochirurgie, neurobiologie, les chercheurs et les médecins. Oui, mais il faut savoir que depuis cette affaire de l'injection de l'hormone de croissance et de la contamination des prions et de la connaissance qu'on en a, on utilise énormément de matériel à usage unique. On a des protocoles de désinfection extrêmement rigoureux et sévères qui sont dans les opérations de neurochirurgie aujourd'hui et qui sont normalement dans nos laboratoires également lorsque l'on travaille sur ces cerveaux. Donc, voilà, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a identifié un mode de diffusion qu'on connaissait chez l'animal qui semble exister également chez l'homme, que ce mode de diffusion a été obtenu par l'intermédiaire d'une transmission, et pas d'une infection, bien d'une transmission au cours d'un contact très très particulier avec du cerveau humain.
Donc il n'y a pas de contagion, maintenant, on est d'accord.
Pardon ?
Il n'y a pas de contagion.
Non, il n'y a pas de contagion. Il n'y a pas de contagion. Et une contagion, c'est également associé à un phénomène épidémiologique, c'est-à-dire une diffusion de la maladie. Or, à ce jour, la diffusion de la maladie, qu'est-ce que c'est? C'est le vieillissement de la population. On assiste à une augmentation extrêmement importante du nombre des cas qui est liée à l'âge. Et les cas surviennent en général après 70 ans. Là, on est dans une situation très particulière où les gens, un, n'ont pas de maladie d'Alzheimer et développent des dépôts amyloïdes extrêmement tôt.
Excellent. Vous en parliez d'ailleurs d'un point de vue épidémiologique. Est-ce qu'il y a un quelconque signe d'une possible transmissibilité d'Alzheimer d'homme à homme aujourd'hui?
Aujourd'hui, non. Oui. Aujourd'hui, non. Si vous mettez deux personnes dans la même pièce, l'un avec un Alzheimer, l'autre sans, oui. Même si vous laissez longtemps, celle qui ne l'a pas n'est pas contaminée, ne développe pas. Sauf si, biologiquement, elle a un risque de développer par ailleurs la maladie d'Alzheimer avec l'âge, ce qui est totalement indépendant. Mais comme c'est un événement extrêmement fréquent, malheureusement, il faut savoir aujourd'hui que après 80-85 ans, c'est quasiment une personne sur cinq qui va développer une maladie d'Alzheimer. Donc la probabilité d'avoir deux personnes qui vont développer une maladie d'Alzheimer est extrêmement grande.
Alors Philippe Amouyel, si on voulait vérifier l'hypothèse de vos confrères anglais là avec cette publication, il faudrait mener des expériences sur les humains. C'est pas envisageable évidemment dans ce domaine-là.
Totalement impossible. Et puis même l'expérience qu'on avait chez la souris, on n'était même pas sûr un jour de pouvoir la vérifier chez l'homme. Là, il se trouve que malheureusement, par ce malheureux concours de circonstances, on a eu un élément qui nous oriente, disant que l'hypothèse est probablement bonne. En revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être des travaux, si jamais, 30 ans après, on arrive à retrouver des produits qui ont pu être injectés, il faudrait aller voir dans les produits injectés si l'hypothèse se vérifie, qu'il existe bien de la protéine amyloïde associée à la protéine prion et également associée à l'hormone de croissance. Ça nous apporterait un élément supplémentaire, qui est indirect. Mais aujourd'hui, c'est une observation qui renforce l'hypothèse que l'on avait chez l'animal, mais qui en aucun cas n'est expérimentale. C'est juste une observation aujourd'hui, et il n'y a que le temps, la meilleure connaissance des choses qui nous permettra de voir comment la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie extrêmement complexe, elle touche l'organe le plus complexe de notre cerveau, progresse, et progresse dans le temps. C'est une maladie qui met des dizaines d'années à se mettre en place, et toute l'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on peut intervenir, nous, en tant que médecin, pour la stopper. Ça, c'est l'objet des recherches mondiales qui sont faites actuellement.
Autour de la publication, justement, de Nature, en fin de semaine dernière, ce sont les chercheurs ou les médias qui sont allés un petit peu vite dans l'interprétation, justement, des résultats?
Alors, ce sont les médias, soyons clairs.
On va se flageller un petit peu. Hein.
Tous les chercheurs, j'ai lu un peu les interviews qui étaient sorties de tous mes collègues, anglo-saxons, elles ont toutes été prudentes, elles ont toutes été à la lumière de la science, à la lumière de la connaissance, et n'ont jamais cherché, parce que vraiment, on n'en a pas les preuves. On peut même imaginer, je vais prendre un autre exemple, on peut imaginer même que cette observation n'est qu'un biais. Mm-hmm. Je vais prendre un exemple. Le cerveau de ces patients, qui est très particulier, est atteint d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ces patients vont devoir donc éliminer de manière primitive, première, cette protéine qui s'accumule dans leur cerveau. On a tous de la protéine amyloïde qu'on élimine tous. Et bien peut-être que leurs circuits d'élimination sont complètement saturés, que cette protéine s'est juste accumulée parce que il y avait trop de travail à faire du côté du prion pour nettoyer le cerveau. Voilà, c'est juste une autre hypothèse.
Donc rien à voir avec Alzheimer.
Alors qu'il n'y aurait rien à voir avec Alzheimer, qu'il n'y aurait rien à voir avec la contamination. Aujourd'hui, rien n'exclut cette hypothèse.
Merci beaucoup Philippe Amouyel. Et puis on peut rappeler quand même que la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, ce sera le 21 septembre prochain. Émission consacrée justement à ce thème dans la tête au carré. Merci beaucoup Axel.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, dépister soi-même le virus du sida, c'est donc possible dès aujourd'hui. L'autotest vient d'être mis en vente, va permettre à toute personne qu'il souhaite d'identifier ou non la présence d'anticorps anti-VIH à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Il suffira d'attendre 15 minutes pour savoir si l'on est ou non porteur. Le test commercialisé est efficace à 99,7%. Il est vendu 25 euros. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Les chauves-souris sont les amis des agriculteurs, selon une étude comparative menée aux États-Unis. En dévorant les vers parasites qui détruisent les plants de maïs, les chauves-souris permettraient une économie mondiale de plus $1 milliard par an. L'étude montre que les cultures accessibles aux chauves-souris subissent 56% de dégâts en moins par les vers que les autres. Et puis de nouvelles images de la planète Mars. Le rover Curiosity a transmis à la Terre des clichés d'une dune de pierre où l'on peut apercevoir une série de fines stries formant des couches superposées. Une dune pétrifiée qui, selon Francis Rocard sur Science et Avenir, serait due au vent et se rapproche de ce que l'on peut trouver sur Terre. Les images sont à retrouver sur le Facebook de La Tête au Carré et sur notre compte Twitter. La disparition des oiseaux, c'est donc notre dossier juste après Apocalypse et Pérez. Bon après-midi.
Je crois que nous étions tous les deux à la terrasse d'un café. Le soleil me faisait cligner des yeux et cela semblait amusé. Quand la nuit s'est abattue au milieu de l'après-midi, nous avons d'abord cru à une éclipse. Comment pouvions-nous deviner que tout dernier jour de l'été serait celui de l'apocalypse? J'aimais te regarder, te noyer.
nous étions amoureux. Serait-il possible que la fin du monde m'ait rendu un peu présomptueux? Quand la nuit s'est abattue au milieu de l'après-midi, nous avons d'abord cru à une éclipse. Comment pouvions-nous deviner que tout dernier jour de l'été serait celui de l'apocalypse? J'aimais te regarder tournoyer jusqu'à vaciller. J'aimais quand tes yeux dérivaient sur moi, quand on dérivait, toi et moi, sans se soucier de quoi que ce soit. Et je t'ai regardé.
Apocalypse avec Pérez sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
La disparition des oiseaux, phénomène qui prend de l'ampleur, c'est le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Frédéric Giguet et Maxime Zucca. Frédéric Giguet, vous êtes directeur du Centre de Recherche Biologique des Populations d'Oiseaux, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous coordonnez également un programme que les Français commencent à bien connaître, STOCK, qui est le suivi temporel des oiseaux communs. Vous avez publié cette année tous les oiseaux d'Europe chez Delachaux et Nestlé. Maxime Zucca, vous travaillez à Nature Parif, c'est l'agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France, et vous aviez écrit en 2011 pour les éditions Sud-Ouest, la migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel. Voilà, donc jeudi et vendredi, 19h, Arte va diffuser Le silence des oiseaux. Ce sont deux documentaires sur le déclin des espèces d'oiseaux dans le monde. Et le premier épisode met particulièrement l'accent sur les passereaux, un groupe d'oiseaux menacés.
On les croise dans nos jardins, dans nos forêts, dans les champs, et même en ville. Le moineau, l'alouette, la mésange. Tous ces oiseaux sont des passereaux.
Et selon certaines statistiques, près de la moitié donc des passereaux auraient disparu depuis 40 ans. Frédéric Giguet, Maxime Zucca, vous le disiez tout à l'heure, hein, Frédéric Giguet, les passereaux représentent à eux seuls énormément d'oiseaux dans le monde, la moitié à peu
près. Peu plus de 5000 espèces, parce que par leur petite taille et l'isolement de population qui peut s'opérer, on a eu une évolution qui a permis de créer un nombre d'espèces très important.
Ça veut dire qu'on connaît 10 000 espèces d'oiseaux aujourd'hui à peu près ?
On connaît à peu près 10 000 espèces d'oiseaux. Il y a des découvertes chaque année, à la fois d'espèces qui étaient inconnues, d'oiseaux qui étaient inconnus et qui s'avèrent être de nouvelles espèces pour la science, mais aussi
d'oiseaux... Ou connus et mal classifiés.
Voilà, ou d'oiseaux que l'on connaissait, que l'on pensait être une variété, une sous-espèce d'une espèce bien connue, mais qui s'avère génétiquement, après des études un peu poussées, être une espèce à part entière.
Ouais. Maxime Zucca, on découvre de nouveaux oiseaux aussi en France, régulièrement ou pas ?
En France, non, malheureusement.
Non, on les connaît bien.
Ouais, c'est le rêve de tout ornithologue, un jour de découvrir ça, une nouvelle espèce qu'il pourra nommer.
C'est ça.
Donc on part en voyage parfois au fin fond des forêts de l'Indonésie, mais
le Zucca français n'existe pas encore. Alors ce serait votre rêve.
Non, il faut plutôt se mettre au myriapode ou des groupes comme ça si on veut découvrir des espèces.
Il faut plutôt partir dans les pays tropicaux a priori, Frédéric Giguet.
Oui, dans les zones reculées des forêts tropicales, dans les montagnes en Afrique aussi, où sont découvertes les principales espèces, dans les îles indonésiennes. Il y a beaucoup d'endémisme. J'ajouterais quand même qu'on est en train, avec une équipe de chercheurs européens et marocain, de décrire une nouvelle fauvette qui, au départ, fait partie, c'est une rousserolle effarvate qui ressemble beaucoup à celle qui niche chez nous.
Une rousserolle effarvate.
C'est une fauvette qui vit dans les roselières. Et il s'avère que celle du Maroc, qui nichent au Maroc sont différentes, plus petites et très proches génétiquement des rousserolles d'Afrique au sud du Sahara. Et on s'est aperçu, en voulant les comparer aux Espagnols, en se disant, bon, les Espagnols seront les Européennes, on va pouvoir les comparer. Non, les Espagnols sont les mêmes que les Marocaines. Et on a retrouvé ces rousserolles jusque dans le sud de la France et même jusqu'en Camargue. Donc on est en train d'écrire un nouvel oiseau qui était connu, que tout le monde baguait, voyait, mais qui s'avère être génétiquement différent et au moins une sous-espèce, peut-être même une espèce différente.
Bien, ce sera officiel quand alors, a priori?
Bah, écoutez, on a soumis notre publication avant l'été, donc ça ne devrait pas tarder.
Bon, ben, on s'en fera l'écho, dans la tête au carré, j'espère. Ce message de Margot, les oiseaux sont-ils des indicateurs biologiques? Nous informent-ils sur la santé de notre environnement, Maxime Zucca?
Oui, comme ils sont... pour la plupart prédateurs, en sommet de chaîne, ce qui se passe dans l'ensemble des compartiments de la biodiversité est assez bien reflété par l'état de santé des populations d'oiseaux. Puis ils sont assez faciles à mesurer.
Ouais.
On arrive très très bien à faire le lien du coup entre une modification d'habitat brutal et les populations d'oiseaux qui s'y trouvent, avec des phénomènes climatiques sur le long terme et pareil, les tendances d'évolution de chaque espèce. Donc c'est l'un des meilleurs indicateurs biologiques actuels et en plus qui est maintenant extrêmement bien documenté grâce au programme STOCK de Gordon Frédéric.
Alors justement, Jean-Paul nous dit, le programme donne-t-il une bonne interprétation des tendances des populations d'oiseaux avec STOCK?
Écoutez, on l'espère. En tout cas, à travers le programme STOCK, on a des comptages d'échantillons de populations de ces oiseaux très abondants. Et on arrive à relier les variations de ces effectifs avec des pressions sur les habitats, des pressions climatiques, des pressions agricoles, forestières, urbaines. Et on retrouve les mêmes motifs de réponse dans différents pays européen. Donc quand on a un même type de politique d'aménagement, on a le même type de réponse chez ces oiseaux. Je rajouterais aussi que les oiseaux, c'est un groupe représentatif qui répond bien, mais aussi qui est connu du grand public. Si on parlait de vers de terre ou de collemboles, tout ce qui est faune du sol, c'est très important pour le fonctionnement des écosystèmes, c'est capital, mais ça intéresse moins les gens. Donc à travers les oiseaux, on touche quand même la sensibilité
Il faut réhabiliter le vers de terre, on l'a souvent dit dans cette émission.
C'est très important.
Mais oui, Bioécologie nous écrit sur Twitter, en 2012, la population d'oiseaux communs dans l'Union européenne était inférieure d'environ 11% à son niveau de 1990. Et depuis, est-ce qu'on a de nouveaux chiffres depuis 2012, Frédéric Giguet?
Alors depuis 2012, oui, bon, on est dans la même dynamique. On note quand même dans les années 2000 une stabilisation dans certains types d'habitats.
Oui.
Mais voilà, chaque année, on attend les nouveaux comptages pour vérifier un peu ce qui se passe. Je crois que cette année qui a été très chaude devrait être en partie catastrophique. En tout cas, on l'a vu sur le terrain, au niveau de la reproduction des oiseaux. Le printemps dernier avait été très pluvieux au mois de mai, au moment où les oiseaux avaient besoin de nourrir leurs poussins. Les œufs venaient d'éclore et en fait, il a plu pendant une semaine. Donc, il y a beaucoup de poussins qui sont morts dans les nids. Donc, voilà. Et tout ça, il faut quand même un petit peu de recul, quelques années pour recueillir les données, étudier les réponses et voir comment tout cela évolue.
Oui, Maxime Zucca.
Et ce chiffre en plus, qui paraît déjà assez élevé, 11% en 20 ans, 30 ans, il faut avoir en tête que ces suivis ont commencé donc à la fin des années 80, à une époque où déjà les modifications agricoles avaient débuté 30 ans auparavant. Si jamais on avait été suffisamment d'ornithologues dans les années 1950-60 pour faire débuter ces suivis, si on avait reculé un petit peu notre point de référence, là je pense qu'on aurait des chiffres qui seraient plutôt de l'ordre de 30-40-50%.
Grosse amplitude, effectivement. Marc demande ceci, quel est l'effet du changement climatique sur les oiseaux? C'est pour poursuivre ce que vous nous disiez peut-être, Frédéric Giguet, en particulier dit Marc, sur les aires de répartition et sur les dates de ponte et l'éclosion des insectes. Donc on voit qu'il y a des effets directs de la météo, même tout simplement.
Oui, alors il faut distinguer la météorologie et le climat, l'évolution du climat. Il y a des effets ponctuels de mini-catastrophes météorologiques qui sont indéniables, qui n'auront pas la même ampleur spatiale que des grands changements climatiques. Donc on prédit des glissements d'air de répartition face au réchauffement climatique, donc des populations d'oiseaux qui, chez nous, vont remonter vers le nord. Alors, il ne faut pas imaginer ça comme un oiseau méditerranéen qui va se déplacer et qui va venir chanter plus haut dans la vallée du Rhône. C'est plutôt qu'en zone méditerranéenne, les oiseaux qui aiment les climats un petit peu frais vont disparaître, s'éteindre, mourir, ne plus arriver à élever des jeunes. Et les oiseaux qui aiment les températures plus chaudes vont pouvoir, génération après génération, se déplacer un petit peu. Quelques pionniers vont aller s'installer un peu plus au nord. Donc on a un rééquilibrage, mais qui est très lent et qui, a priori, est plus lent que
l'évolution du climat. Climatique. Le silence des oiseaux, nouvel extrait, toujours autour des passereaux et de leur chant, évidemment, puisqu'on les appelle les oiseaux chanteurs.
Leur chant est produit par un organe très spécifique, placé au fond de leur trachée. Cela permet aux oiseaux de chanter deux mélodies différentes simultanément. C'est en modulant son syrinx que l'oiseau parvient à chanter en duo avec lui-même.
Voilà, le syrinx, donc, Maxime Zucca. C'est cet organe qui permet donc à ces oiseaux d'avoir un chant si mélodieux. Et, une double mélodie en plus en prime.
Je ne suis pas spécialiste du syrinx.
Bon, alors est-ce que Frédéric Giguet, vous avez plus d'informations sur la question ?
Sur le syrinx, non, pas forcément, mais oui, les passereaux, c'est le groupe des oiseaux chanteurs, donc effectivement avec des vocalises très développées par rapport à ce qu'on peut connaître des goélands ou des rapaces qui ont des cris plus que des chants. Voilà, la plupart des oiseaux chantent, même les corvidés, même les corneilles chantent, hein, c'est pas très mélodieux, mais avec leur syrinx, elles arrivent à moduler beaucoup de sons qui ne sont pas les croassements, mais qui sont des petits cliquetis beaucoup plus aigus.
Vous arrivez à reconnaître les oiseaux en fonction de leur chant quand même, Maxime Zucca, j'imagine.
Bien sûr, je me souviens, on avait déjà eu droit à un quiz.
Voilà, mais on n'en a pas aujourd'hui, on vous l'épargne en tout cas. Par contre, on a une petite pause à faire et on se retrouve juste après avec d'autres messages des auditeurs.
Je suis encore
frénésie avec Lerita Mitsuko et Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Tête au Carré.
Attends une seconde. Tu n'es pas fou au point de compromettre nos bonnes relations de voisinage pour ce ridicule petit oiseau? Ça serait même pas une bouffée pour un seul de nous deux, alors, hein?
Oui, oui, c'est vrai, c'est qu'une demi-portion.
Alors, que dirais-tu si nous le remettions à sa place et si nous l'oublions?
Oui, oui, on va l'oublier.
Ouais, ouais, c'est ça, oubliez-moi.
Voilà, ça nous faisait plaisir de mettre un extrait de Titier Gromilet dans cette émission sur la disparition des oiseaux. On parlera d'ailleurs des chats quand même, tout à l'heure, Maxime Zucca, parce que c'est un vrai problème aussi, hein. C'est un des gros facteurs de disparition des oiseaux, je crois quand même, hein.
Il semblerait que ce soit la cause de mortalité induite par l'homme, directe induite par l'homme, mm-hmm. la plus élevée.
Ouais, bon, on y reviendra, il y aura un extrait justement du documentaire Le silence des oiseaux. Frédéric Giguet, comment on estime justement précisément l'ampleur du déclin des oiseaux? Comment on procède pour avoir des chiffres à peu près fiables? Parce que certains sont discutables.
Disons qu'on a, il y a énormément de personnes, et je crois parmi nos auditeurs, qui constatent chez eux la disparition d'oiseaux, la diminution du nombre de nids d'hirondelles dans la ferme d'à côté, du nombre d'oiseaux dans le jardin. Il a été important en fait d'avoir des comptages standardisés sur le long terme. Et c'est la chance que l'on a eu au muséum, c'est d'avoir un programme qui a démarré en 1989, mais il y a des comptages similaires dans d'autres pays comme l'Angleterre ou la Suède depuis les années 60, où des ornithologues qui savent reconnaître les oiseaux à leur chant et à la vue vont aller chaque printemps au même endroit et compter durant le même temps, 5 minutes en France, tous les oiseaux qu'ils voient et qu'ils entendent. Et on a comme ça une standardisation de l'effort de comptage et on va pouvoir comparer le nombre d'oiseaux comptés d'une année sur l'autre. Alors, on a des variations qui peuvent être des fluctuations, il y a une bonne, une mauvaise année, et puis on a des tendances qui vont se dégager sur le long terme, au-delà de ces fluctuations, et qui vont nous informer sur l'évolution à long terme des effectifs de ces oiseaux.
Donc on a une photographie donnée chaque année, prise au même endroit, au même moment, dans les mêmes conditions, et qu'est-ce que donne la tendance justement sur les dernières décennies, très clairement?
Mais la tendance, c'est celle que nous annoncions tout au long de l'émission, c'est qu'on a effectivement une diminution du nombre d'oiseaux, effectivement de l'ordre de 50% depuis les années 60, si on recolle les jeux de données des différents pays européens, incluant ceux des pays du nord de l'Europe, et des déclins qui n'affectent pas toutes les espèces de la même manière. Plus une espèce va être spécialiste d'un habitat ou d'un climat, les oiseaux qui aiment uniquement le chaud, uniquement le froid, uniquement les vieux arbres, uniquement les prairies, vont souffrir plus et diminuer plus que les oiseaux qui peuvent s'adapter aussi bien à la ville, aux forêts, aux bosquets, aux champs.
Maxime Zucca, dans le documentaire d'Arte, qu'on verra donc jeudi et vendredi à 19h, il est dit que 10 milliards de passereaux meurent chaque année. À quoi ça correspond alors ce chiffre exactement? C'est une mortalité naturelle ou vraiment en raison justement des problèmes dont on a parlé déjà?
C'est une très bonne question. Il est très délicat d'interpréter ce genre de chiffres. En plus, à l'échelle de la planète, d'arriver à donner des tailles de population, toutes espèces confondues, c'est extrêmement difficile. Si on essaie de s'attacher simplement, de s'intéresser à la France, que nous, on a un petit peu plus de facilité à comparer, on a de l'ordre de peut-être près de 100 millions d'oiseaux, de couples d'oiseaux, de passereaux nicheurs, peut-être un petit peu moins. Prenons par exemple la mésange, on parle oiseaux communs, etc. On a 5-6 millions de couples de mésanges charbonnières nicheurs. Ces mésanges charbonnières vont produire 10 jeunes à l'envol chaque année. Donc on va avoir 50-60 millions de mésanges charbonnières chaque année produites. Pour que la population se maintienne, il suffit qu'il n'y en ait que 5 ou 6 millions qui survivent. Donc on s'attend potentiellement à ce qu'il y ait 45 millions de ces mésanges qui meurent du fait de prédation naturelle, de difficulté à trouver un nouvel habitat. Les premières semaines de vie sont les plus risquées. Les oiseaux sont extrêmement soumis à tout un tas de dangers et meurent. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une stratégie qui consiste à se reproduire beaucoup et à miser sur la survie d'un ou deux de ses descendants. Donc on a de toute manière une mortalité très forte pour toutes les espèces de passereaux. Donc 50 millions pour une espèce, vous voyez que ça monte à plusieurs centaines de millions si on prend en compte tous les passereaux français. Alors dedans, on va avoir effectivement une part de mortalité directement induite par l'homme, par les chats, donc qui sont, dont on est indirectement responsable. Est-ce que cette mortalité est additive? Est-ce qu'elle vient s'ajouter à une mortalité naturelle qui de toute manière existe? Ou est-ce qu'elle est compensatoire? Est-ce que de toute manière, ce serait des individus, il s'agit d'individus qui seraient probablement morts ou pas? On ne peut souvent pas faire la part entre les deux, c'est extrêmement délicat, il faut des travaux très pointus sur une population donnée. En tout cas, simplement pour vous dire que donner un grand chiffre comme ça, 10 milliards d'oiseaux meurent chaque année, ça a assez peu de sens finalement.
C'est ça.
Il vaut mieux parler en termes de tendance. Mm-hmm. Voilà, on observe moins 5%, moins 10% d'individus de telle espèce en 10 ans. Là, on peut constater vraiment un déclin, quelque chose d'inquiétant.
Rodica nous dit ceci: dans mon quartier, le 15e à Paris depuis quelques années, il n'y a plus un seul moineau, moins de corbeilles, beaucoup moins de pigeons. Pourquoi une telle disparition alors à Paris?
Mais c'est une très bonne question. Et je crois que sur le moineau, on est nombreux à constater une diminution récente. Les Anglais avaient tiré une sonnette d'alarme il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec la disparition du moineau de Londres.
Ouais.
Et nous, Parisiens, nous sentions à l'abri parce qu'on disait à Paris, il reste quand même des moineaux un petit peu partout. Mais effectivement, sur les années récentes, on ne voit presque plus de moineaux dans Paris.
Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement en quelques années?
C'est assez difficile à comprendre.
Ouais.
Sur des cas très précis comme le Jardin des Plantes, au Muséum National d'Histoire Naturelle, on a un couple d'éperviers qui s'est installé. Et effectivement, depuis que les éperviers sont là, les moineaux se cachent ou les moineaux sont mangés par l'épervier. C'est une richesse d'avoir ce rapace prédateur qui a pu recoloniser ce jardin, mais il y a forcément après un nouvel équilibre qui se crée dans la communauté proie-prédateur. Voilà, mais ensuite on constate quand même une diminution des effectifs de moineaux de manière un peu plus large dans Paris, alors que c'est vrai qu'en parallèle on a une gestion des espaces verts qui est, on va dire, beaucoup plus écologique qu'il y a 10 ou 20 ans.
Donc moins de pesticides, a priori.
Voilà, on a aussi des aménagements qui maintenant prennent en compte beaucoup plus la verdure, les arbres, les parterres fleuris. Donc c'est assez difficile à comprendre et il serait intéressant de lancer une étude pour étudier tout ça.
L'appel est lancé, en tout cas, pour avoir une étude sur la question. Marie-Ève demande ceci, je vous écoute à propos de ces oiseaux, je veux alerter au sujet du poison contre les rats. J'ai vu mourir des hirondelles et nicher après avoir mangé les mouches sortant des rats morts. Maxime Zucca.
Je n'ai jamais entendu parler de ce problème, c'est possible, effectivement.
Bon.
En tout cas, il est certain que les rodenticides qui sont utilisés contre les rongeurs ont causé des dégâts importants chez les rapaces, qui mangent directement ces rongeurs. Parfois même des appâts directement empoisonnés à destination de ces rapaces également. Bon, que les mouches elles-mêmes puissent transmettre à l'hirondelle peut-être, mais là je n'ai pas de réponse.
Dominique nous dit: j'habite près de Pau dans une vallée encore sauvage. Je nourris les oiseaux du ciel à longueur d'année et j'en ai de plus en plus d'autres dans ma propriété. Mais je me demande si c'est une bonne idée de se substituer à la nature. On en avait parlé d'ailleurs ici dans l'émission, je me souviens.
Alors, moi, je trouve que il faut aussi se faire plaisir. C'est à peu près évident qu'on ne va pas changer le cours des choses totalement, à part pour ces quelques oiseaux, en nourrissant notamment en hiver. Mais par contre, c'est important d'avoir ce lien avec la nature. C'est important d'aider les oiseaux quand ils en ont besoin. Je préciserai quand même, alors après il y a différentes philosophies sur ces nourrissages. Moi je conseillerais quand même d'arrêter de nourrir au moment où les oiseaux vont se reproduire. Et surtout quand les jeunes oiseaux vont s'envoler du nid et où ils vont devoir apprendre à se nourrir seuls. Une petite mésange qui quitte le nid, il faut qu'elle apprenne à trouver des chenilles et des insectes dans les écorces, dans le feuillage, sinon elle n'arrivera pas à survivre. Et si elle prend l'habitude, dès l'envol, de venir à la mangeoire chercher des graines de tournesol, elle ne pourra pas survivre très longtemps. Donc là, ce serait une aide très ponctuelle, mais qui vouerait ces oiseaux à une mort certaine peu de temps après.
Sur Twitter, Hugo nous dit ceci: je suis obligé, à cause de mes voisins, de tailler ma haie de thuya. Or, c'est un paradis pour les oiseaux. Comment faire au mieux? Est-ce qu'il faut attendre novembre? Maxime Zucca, une réponse?
De manière générale, c'est bien d'essayer de tailler ses haies à la fin de l'automne, effectivement, pas quand les oiseaux se reproduisent. Bon, la haie de thuya, c'est pas forcément le plus grand des paradis pour les oiseaux. Les mères l'aiment bien, c'est vrai. Ils peuvent nicher dedans. Mais une haie en troène ou en arbre indigène, c'est encore mieux. Mais oui, attendre la fin de l'automne.
Nouvel extrait de ce documentaire, Le silence des oiseaux, au sujet des chats.
Le chercheur américain Pete Mara a calculé le nombre d'oiseaux tués par les chats en Europe et aux États-Unis chaque année. Le résultat est terrifiant.
En prenant le plus petit nombre de chats en liberté et le plus petit nombre d'oiseaux censés être tués par ces félins, On arrive sur une estimation base de 1,4 milliard d'oiseaux tués chaque année par les chats.
Une caméra attachée au cou d'un chat donne une idée de l'impact de cette prédation.
On sait que l'extinction d'au moins 32 espèces a été causée par les chats.
Alors, commentaire, Frédéric Giguet, parce que là, on a des chiffres complètement délirants. 1,4 milliard d'oiseaux chaque année tués par les chats.
Oui,
c'est possible.
C'est totalement possible. Si vous vous promenez, même dans les campagnes, la nuit, et que vous circulez sur les chemins ruraux et que vous voyez des petits yeux briller en espérant voir un renard ou une fouine, les trois quarts du temps, vous voyez un chat. On a des chats domestiques retournés, on va dire, vivre dans la nature ou même encore dans les jardins, les gentils chats, qui vont s'alimenter dehors, qui vont attraper des souris, jouer avec, attraper des petits oiseaux quand ils quittent leur nid. C'est un comportement prédateur que l'on comprend tout à fait. Bon. Et effectivement, comme il y a beaucoup de chats, eh bien, il y a beaucoup d'oiseaux qui doivent se faire attraper par les chats.
Bon, donc c'est un véritable fléau quand même, comme on le disait tout à l'heure.
On peut effectivement le voir comme cela. On parlait tout à l'heure de mortalité additive ou compensatoire. La plupart de ces oiseaux seraient peut-être morts autrement. Maintenant, on peut aussi leur donner la chance de pouvoir vivre et pas forcément d'être croqué par un chat rapidement.
Patrice nous dit, il est fondamental de changer les mentalités. Une partie des jardins doit rester sauvage pour favoriser les insectes et donc les oiseaux. Alors là, c'est du bon sens.
On arrive dans les solutions, c'est complètement du bon sens et ça fait partie de mon optimisme, c'est que les choses progressent très vite.
Et simplement en fait, parce qu'on a
très
des outils.
Très simplement, en faisant moins en fait, et pour moins cher souvent. Donc dans les jardins privés, puis dans les jardins publics également.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages encore pour vous sur franceinter.fr. On se retrouve après. Elliot Mosley.
Safety nets, stronger love, make it all right. To let go, you gotta hold on. Oh, it's gonna slip, slip, slip through your sleep.
Slip, Elliot sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
sur France Inter.
Le déclin des populations d'oiseaux partout dans le monde avec mes invités Frédéric Giguet et Maxime Ducas, ornithologues. Vos messages nombreux, celui de Sylvie qui habite dans le Nord. Et aujourd'hui, dit-elle, les moineaux ont disparu des jardins depuis les années 60. Par contre, nous sommes envahis par des perruches lâchées dans la nature, volontairement ou non, par les amateurs d'oiseaux exotiques. Ça, c'est un problème aussi qu'on observe beaucoup.
Ce n'est pas un problème avéré. Il y a effectivement de plus en plus de perruches, pas forcément lâchées par les amateurs d'oiseaux exotiques, puisque les deux foyers de population se sont développés autour des deux aéroports, Roissy-Orly. Donc on suppute que peut-être c'était aussi des échappées de douane. Toujours est-il qu'il y a aussi eu des relâchés. Mais toujours est-il que la perruche s'acclimate très très bien à nos villes. En plus, du fait de l'îlot de chaleur urbain, il y a 2-3 degrés de plus. C'est pareil à Bruxelles, c'est pareil à Londres, c'est pareil à Barcelone. Moi, je trouve que c'est assez joli, ces perruches, finalement. Elles font... On n'a pas de preuves de compétition extrêmement marquée avec des oiseaux cavicoles, donc profitons. Écoutez.
Suzy nous dit ceci, la chouette chevêche a totalement disparu de notre vallée de la Thur en Alsace depuis 20 ans, lorsque les vergers ont été classés en zone constructible. Aujourd'hui, la faire revenir tient de l'impossible.
Oui, forcément, on est sur des oiseaux, non passereaux hein, quand même, mais des oiseaux qui vivent assez longtemps, donc qui ont, on va dire, une dynamique de population plus lente. Contrairement aux mésanges qui vont élever 10 poussins par an, la chevêche, ça va être quelques poussins. Et donc, pour recoloniser des zones perdues, c'est très long, d'autant qu'elle niche dans des trous d'arbres, de vieux arbres, et qu'avant que... Enfin, si on a coupé les vergers et qu'on replante des arbres, avant qu'ils soient vieux et qu'ils aient des cavités susceptibles d'accueillir l'oiseau, il va falloir attendre plusieurs décennies.
Autre problème évoqué dans le documentaire Le silence des oiseaux sur Arte, donc jeudi et vendredi, celui de la pollution lumineuse.
À l'occasion de la soirée de commémoration du 11 septembre, deux faisceaux lumineux traversent le ciel. Cette lumière est si puissante que cela perturbe les oiseaux. Pour certains, ça peut être fatal. Il y a deux oiseaux tout en haut des faisceaux. Un passereau de taille moyenne, probablement une grive. Si beaucoup d'oiseaux restent dans cette zone et se rapprochent trop des faisceaux, nous avons l'autorisation d'éteindre les lumières.
Voilà, donc des mesures sont prises quand même dans les grandes villes, avec des changements sur le comportement des oiseaux liés à cette pollution lumineuse, Maxime Ducas.
En tout cas, ce qui est déjà intéressant à comprendre, pourquoi est-ce que les oiseaux sont sensibles à cette pollution lumineuse, c'est principalement la grive dont parlait ce petit reportage. Ce sont des oiseaux qui migrent la nuit et qui s'orientent en fonction des étoiles, à l'aide des étoiles, mais également à l'aide de leur sens électromagnétique, et qui vont du coup utiliser l'inclinaison des lignes de champ magnétique. Et pour cela, ça fait intervenir une réaction chimique... qui fait intervenir des pigments, les cytochromes B, dans la rétine, qui répondent à des lumières de longueur d'onde blanche ou jaune, qui sont les mêmes longueurs d'onde que celles des éclairages publics, en particulier que celles des grandes tours de télévision, des télécommunications. Donc on peut assez bien jouer finalement en changeant les longueurs d'onde des lumières émises par ces tours ou en les éteignant la nuit, ce qui s'est fait aux États-Unis de plus en plus. En France, on avait un petit peu moins ce problème, semble-t-il. Mais du coup, clairement, les oiseaux sont perturbés dans leur orientation, foncent sur ces lumières comme les papillons de nuit un petit peu. D'autant plus les nuits brumeuses, lorsqu'il y a plein de petites gouttelettes qui vont diffuser cette lumière. Alors là, ils vont dans tous les sens partout s'écraser contre des fenêtres. De manière générale, les vitres causent une mortalité presque aussi importante que celle des chats.
C'est ça. Alors, les autres problèmes justement liés à la disparition des oiseaux, qu'est-ce qu'on peut évoquer comme menaces, Frédéric Giguet ?
Les menaces globalement, on va dire les plus pressantes aujourd'hui, ça continue à être l'intensification de l'exploitation que l'on fait de notre environnement. À la fois la pollution dans les zones urbaines mais autres, les pratiques agricoles. Il y a eu de grosses intensifications. On aimerait revenir un peu sur l'utilisation de pesticides, mais on voit qu'il y a quand même un besoin de production alimentaire important, de revenus agricoles, qui fait que la question environnementale a du mal à prendre plus de place que la petite place qu'elle a aujourd'hui. Donc on est aussi dans une période où on veut sortir des énergies liées au pétrole, donc on parle de l'énergie bois par exemple, mais ça veut dire qu'on va couper les arbres plus jeunes pour avoir plus de bois, donc on laisse moins les forêts vieillir, donc on aura moins d'insectes dans les forêts, donc moins de nourriture pour l'ensemble du reste de la biodiversité. Donc on est dans une dynamique, on va dire, la principale cause de déclin, ça va être cette intensification d'exploitation que l'homme fait de son environnement et qui dégrade l'ensemble des habitats qu'utilisent les animaux.
Alors Maxime Zucca, justement sur la nourriture liée aux insectes, vous avez mené une étude récente là ?
À Nature Paris, tout à fait. Donc on a fait une étude assez originale, enfin on a reproduit en fait une étude assez originale menée par l'INRA en 1990 qui consistait à poser des plaques engluées sur la calandre d'une voiture, de faire des transects, des portions de route autour de la forêt de Fontainebleau. Mm-hmm. Je pense que tout le monde, tous les auditeurs ont remarqué qu'on a quand même beaucoup moins de grosses taches d'insectes écrasées contre notre pare-brise maintenant. Donc on a essayé de prouver ça, on a refait exactement à l'été 2013, on dépouille avec le Muséum d'Histoire Naturelle les résultats depuis lors, et là ça y est, on est prêt à publier les résultats, donc c'est en avant-première.
Alors
aujourd'hui.
Un scoop, tête au carré, Tlock.
On observe moins 20% d'insectes en quantité depuis en 30 ans. Donc pareil, c'est parallèle aux oiseaux finalement.
Et c'est autant de nourriture en moins.
Et donc voilà, moins d'insectes, moins d'oiseaux, ça paraît assez logique. Je pense que comme pour les oiseaux, si l'on avait comparé avec les années 60, on serait à moins 50% certainement.
Oui. Elisabeth, depuis quelques années, nous sommes envahis par des perruches vertes qui chassent nos moineaux et autres mésanges verdiers. Elles arrivent en bande et les passereaux fuient. Que faire, Frédéric Giguet?
Eh bien, admirer les perruches.
Oui.
On va dire qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui va dire que ces perruches sont en fait un excellent moyen de reconnecter les urbains à la nature, parce que justement, ils vont être interpellés par ces oiseaux alors qu'ils ne regardaient même plus les moineaux ou les pigeons. Mmh. Et puis une autre école qui va dire mais ces oiseaux n'ont rien à faire ici. Ils ont été introduits, ils vont forcément modifier l'environnement, manger des bourgeons de plantes qui sont importantes, etc. Je pense qu'il est urgent en fait de faire des études pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Si les perruches arrivent à s'installer, c'est aussi parce qu'il y avait un trou, une place peut-être laissée par les 50% d'oiseaux qui ont disparu depuis 50 ans.
Bon.
Et que finalement ces perruches ont peut-être un rôle à jouer, soit dans l'écosystème, soit pour nous humains et pour reconnecter nos sociétés à la nature.
Bon, on en voit partout en tout cas, il y a plein de messages des auditeurs dans le parc de Sceaux, dans le parc de Versailles, hein. Les perruches sont partout. Maxime Zucca, bon, c'est un grand classique, en tout cas, c'est très souvent signalé par les personnes qui vous parlent des oiseaux. Lucie nous dit ceci, comment peut-on agir à notre échelle pour aider nos oiseaux à installer des nichoirs, leur donner à manger? C'est la dernière partie de l'émission et on a très peu de temps pour en parler, mais il faut évoquer les solutions évidemment pour les dynamiques de population d'oiseaux.
Alors effectivement, ça fait partie des solutions, hein. Chacun a sa petite échelle. Mmh. Moi je suis encore une fois très optimiste parce que j'observe depuis quelques années, par rapport, si on compare il y a 10-15 ans, dans toutes les collectivités, les villes, dans les associations, dans les entreprises, on a maintenant des personnes recrutées, des chargées de mission biodiversité, environnement, qui amènent leurs petites gouttes d'eau, qui font changer les choses, qui instaurent de la gestion écologique des espaces verts, des nouvelles pratiques, donc du coup des endroits où on se retrouve avec plus d'insectes, donc plus d'oiseaux communs, plus de migrateurs qui peuvent s'arrêter. C'est toutes petites initiatives.
Alors concrètement, les nichoirs par exemple, c'est une bonne idée ou
Concrètement, les nichoirs, c'est une bonne idée. Bah, pour les chauves chevêches, j'en parlais à Frédéric, ça peut compenser l'absence d'arbres morts ou de vieux arbres. Mais sinon, simplement laisser pousser, laisser les herbes folles gagner les jardins, installer, recréer des petites zones humides. On a des nouveaux jardins maintenant créés dans Paris, des nouveaux jardins publics, jardin des Grands Moulins à Paris, qui a été créé en pensant un petit peu à la biodiversité. Ça marche extrêmement bien. Les oiseaux migrateurs s'y arrêtent, ils stationnent, ils restent. Voilà, du coup, on commence à faire les choses. Moi, je suis assez enthousiaste.
Frédéric Giguet, pour terminer, vos préconisations?
Oui, on parlait du programme Stock en début d'émission. Grâce à ces données sur les oiseaux communs, alors qu'ils quantifient le déclin, mais qui nous permettent aussi de regarder comment évoluent ces populations dans différents types d'espaces, on a pu montrer que les mesures agré-environnementales sont efficaces pour maintenir les populations d'oiseaux dans les champs, que les espaces protégés sont des endroits, alors aussi bien les réserves naturelles que les parcs nationaux, sont des endroits où les oiseaux communs se sont maintenus alors qu'ils ont diminué partout ailleurs.
Oui.
Tout ça pour dire qu'il faut insister sur le fait que les solutions existent, qu'on les connaît puisqu'elles ont été testées à petite échelle, soit en mettant des petits espaces sous cloche, soit en pratiquant différemment en milieu agricole. Donc on sait comment maintenir ces populations. Il reste à généraliser ces mesures pour pouvoir sauver les oiseaux.
Bon, le programme Stock est en lien sur La Tête au Carré. Il y avait encore beaucoup de témoignages, beaucoup de questions des auditeurs. Vous pouvez poursuivre d'ailleurs, vous pouvez commenter toujours et vous répondre sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric Giguet et Maxime Zucca. Donc jeudi et vendredi 19h, Le silence des oiseaux, double documentaire inédit sur Arte. Fabrice Drouel est arrivé. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Avec Affaires Sensibles, après les infos.
Voilà, nous avons revenir sur Sangatte, où des migrants ont erré si longtemps et errent encore aujourd'hui. Évidemment, ce sujet a des résonances très fortes, très puissantes en ce moment avec la crise migratoire actuelle dont nous parlerons avec notre invité Laurent Geoffrin, directeur de Libération.
Vous êtes en
Libération,
partenariat, je vous ai vu en photo dans Libé aujourd'hui. Et voilà.
Une fois tous les 15 jours.
C'est juste après les infos.